Vous écoutez France Culture.
Les vendredis de la philosophie, notre sujet aujourd'hui, Nietzsche, toujours intempestif. En s'attaquant à la métaphysique, Nietzsche a voulu briser non seulement les idoles de la culture occidentale, mais aussi la grammaire qui les a construites. Ses œuvres sont des armes qui font la guerre aussi bien à Socrate, au Christ, qu'aux antithèses qui hiérarchisent la vérité et les apparences, l'âme et le corps, le bien et le mal. Penseur de la vie, de l'affirmation, il a traqué les ressorts psychologiques des grandes abstractions et le ressentiment qui les anime. Sa critique généalogique a durablement jeté le soupçon sur la philosophie et ses concepts. Ignoré de son vivant, Nietzsche est devenu la pierre de touche pour évaluer les discours philosophiques. Il fut la référence majeure des années 60 et 70, et dans les années 90, il regroupa même contre son nom des collectifs de philosophes. Nietzsche, inactuel, reste-t-il intempestif ? N'est-il pas menacé à la fois par la vulgate hédoniste et par la vivisection universitaire ? Ce sont des questions que je vais poser à mes invités. Éric Blondel, professeur à l'Université de Paris 1. Monique Dixot, professeur émérite à l'Université de Paris 1. Mathieu Kessler, maître de conférence à l'UFM d'Orléans-Tours. Et Philippe Solers. On ne vous présente plus Philippe Solers. Hein, vous êtes un de nos écrivains les plus inventifs et les plus cultivés depuis presque une cinquantaine d'années. Alors je vais commencer par une question, la réception de Nietzsche. Je disais, des années 60-70, c'était la référence majeure. Qu'en est-il aujourd'hui ? Bon, il y avait eu aussi quand même, n'oublions pas, la réception par Bataille, par Klossowski. Alors, comment on peut expliquer cette réception à la fois, je dirais, très vive, très glorieuse, et puis, ces attaques, on a l'impression qu'on doit toujours se situer par rapport à Nietzsche, par rapport à quelqu'un qui a mis en cause la philosophie. Alors, qui veut bien accepter de répondre à cette question sur la réception ? Je m'adresse à peut-être un universitaire, Éric Blondel, ou Mathieu Kessler, qui se lance. Monique Dixot, alors allons-y. Alors, Monique Dixot.
Je ne vais pas du tout répondre à votre question.
Allons bon.
Je vais poser la question de votre question.
Oui.
Parler de la réception de Nietzsche, parler des interprétations de Nietzsche, cela fait partie de ce qu'on appelle l'histoire des idées. Dans le cas de Nietzsche, l'histoire des idées est souvent l'histoire de sa récupération idéologique. Et vous avez parlé des années 60-70, bon, ce n'est qu'une des récupérations idéologiques. Il y a eu d'abord la récupération nazie, etc., on la connaît bien. Et ces années ont été gouvernées par une très curieuse trilogie qui n'était pas seulement Nietzsche, mais Marx, Freud, Nietzsche. Très curieuse parce que, en fait, leur herméneutique est pratiquement contradictoire. Mais ce que je voulais dire, c'est que, pour ma part, ce qui m'intéresse, ce n'est pas du tout la réception de Nietzsche,
d'accord,
les commentateurs de Nietzsche, mais la pensée de Nietzsche.
Alors,
pourquoi je ne réponds pas.
Ça commence
à votre
brutalement
question.
Parce que, moi je vais vous dire tout simplement mon expérience, d'un étudiant en philosophie qui a découvert Nietzsche grâce à un livre, quand même, qui est celui de Deleuze et qui a été un événement pour la réception de Nietzsche. Alors, je sais bien que, vous n'êtes peut-être pas d'accord avec la réception de Deleuze, mais enfin, en tout cas, pour un certain nombre d'étudiants, ça représentait une œuvre qui avait une découverte. Il y a eu Granier, il y a eu Michel Arge, il y a eu quand même aussi, à un moment donné, il y a eu un moment de Foucault, puis Derrida, qui a été un moment de relecture pour beaucoup d'entre nous de Nietzsche.
Alors c'est très intéressant, mais c'est moins intéressant que Nietzsche.
Philippe Solers.
Donc, je trouve que Monique Dixot a dit quelque chose de très important, c'est-à-dire Nietzsche enrôlé dans des ensembles ou dans des collectivités falsifiées. Et en effet, Marx, Freud, Nietzsche. Bon, tout ça, c'est frite. Vous avez cité le nom de Bataille, vous avez cité le nom de Klossowski. Il y a là quelque chose de très étonnant. C'est que Klossowski a traduit un livre de l'allemand que, semble-t-il, aucun philosophe français n'a lu et que lui-même, probablement, n'a pas compris, ce qui est très étrange. On peut donc traduire un livre sans le comprendre. Il s'agit, bien entendu, du sur Nietzsche de Heidegger.
Oui, oui.
Et là, je peux vous démontrer que ce livre est en attente de lecture, qu'il a, il n'a pas été encore vraiment médité et lu. Et là, nous allons tomber. Alors, attention, est-ce que nous avons le droit de parler de Heidegger? Ben, oui, c'est une question très, très, très importante. À mon avis, parler de Nietzsche sans parler de Heidegger, déjà, on commence à être très, très, très en retard, d'autant plus que ce sur Nietzsche, il faudrait savoir si les philosophes français, alors Deleuze, non, Foucault, non, Lacan, non, Derrida, pas vraiment, et voilà, le fond de la question, c'est ça. Alors, donc, Nietzsche est toujours en attente, et je voudrais dire simplement que depuis le 30 septembre, d'après moi, nous sommes en l'an 119, c'est-à-dire que quand même l'important avec Nietzsche, c'est de savoir si oui ou non nous changeons de calendrier avec lui, si nous avons le courage personnel de changer de calendrier. C'est quand même le penseur qui a changé le calendrier.
À rappeler, alors quand même la date initiale,
88. Eh bien, la date initiale, nous sommes le 30 septembre 1888 à Turin. Turin, quelle ville, où Nietzsche a vécu c'est sa dernière époque d'une fécondité absolument extraordinaire, dans une santé absolue. On vous dit que là, on voit quand même des prodromes de la folie, mais pas du tout, c'est le contraire. Et donc, le 30 septembre 1888, c'est la fameuse loi contre le christianisme, qui fait suite à l'Antéchrist, où il dit, voilà, maintenant, tout ça, ça suffit, nous allons entrer dans le premier jour de l'ère du salut, mais vraiment du salut avec un grand S. Et donc, voilà, ils fondent un calendrier. Alors, là, tout de suite, nous avons un certain rapport au temps. Qu'est-ce que ça veut dire de fonder un calendrier seul? Voilà. Parce qu'après tout, le Christ n'a pas fondé un calendrier. Tout le monde emploie, nous signons tous des chèques, la planète entière signe des chèques avec un calendrier économico-politique, sans aucune référence au christianisme. Les musulmans signent en 2006 leurs affaires. Tout le monde, voilà. Donc c'est devenu un calendrier absolument économico-politique, avec des transvasements et des secousses et des séismes religieux. Alors écoutez, Nietzsche, c'est très simple. Parlons vite. Est-ce que Dieu est mort ou se décompose-t-il encore parmi nous? Est-ce que nous pouvons changer de temporalité réellement et de calendrier? Il y a eu des essais, voilà, deux. Et puis quand même, allons droit à l'essentiel, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que l'éternel retour? Oui, non, qu'est-ce qu'on entend par là? Parce qu'autrement, on va se perdre dans, en effet, une généalogie, de commentaires qui n'a, à mon avis, pas un caractère d'urgence. Nietzsche est urgentissime dans la mesure où nous sommes, oui ou non, dans une certaine temporalité, celle du dieu mort qui continue ses ravages, ou bien alors quelque chose de libre. Absolument.
D'accord. Alors, Eric Blondel, vous êtes traducteur, vous avez aussi écrit des livres sur Nietzsche. Est-ce qu'effectivement, vous avez l'impression qu'il faut sortir Nietzsche de ses récupérations, comme dit Monique Dixot, je trouve le mot très, très brutal, mais bon, ces récupérations idéologiques, est-ce que, bon, finalement, on peut accéder à un vrai Nietzsche?
Disons universitaire, tout simplement, parce que la polémique est là.
Eric Blondel.
Oh, je rappelle quand même que Heidegger aussi était universitaire et pas des plus...
Oui, ça a été sa stupidité, il l'a bien connu, c'est pour ça.
Pas des mieux famés, tout de même. Donc,
Nietzsche aussi était universitaire.
Et Nietzsche lui-même, pour commencer.
Non, il était en disponibilité, il a vécu comme un aventurier sans enseigner, attention.
Il signait jusqu'à la
fin,
il signait professeur docteur Nietzsche.
Eric Blondel.
Jusqu'à la fin, Nietzsche signait professeur docteur Friedrich Nietzsche dans sa correspondance. Donc il y tenait beaucoup. Cela dit, on ne va pas polémiquer là-dessus. Je ne pense pas que les universitaires soient seuls à récupérer. C'est leur travail de diffuser. Pour ma part, j'ai aussi traduit. J'ai enseigné beaucoup sur Nietzsche, oui. Mais je pense qu'il y a eu plusieurs récupérations. Et plus grave encore que la récupération, il y a eu d'abord la falsification. Jusqu'en 1967, on a vécu, et Deleuze a commenté, et Heidegger a commenté, et un certain nombre d'autres ont commenté sur des textes qui étaient falsifiés, des textes qui étaient le résultat d'une fraude philologique. À partir de 1967, on a commencé à rétablir les textes originaux, y compris les textes originaux des textes publiés par Nietzsche. Et puis les fragments posthumes ont été publiés. Je rappelle que les fragments posthumes, pour Heidegger, comme le souligne Madame Dixo, pour Heidegger, c'était le vrai Nietzsche. Parce que Nietzsche, paraît-il, disait ce qu'il pensait dans ses fragments posthumes, et puis dans les œuvres, il se cachait de la police de Guillaume II, Guillaume Ier, puis de Guillaume II. Bon, Nietzsche a rejeté un certain nombre de brouillons, mais on s'est emparé de ces brouillons pour faire une pseudo-volonté de puissance et faire une sorte de raquette sur les œuvres de Nietzsche,
oui, ça, c'est
dont la récupération idéologique n'est qu'un des aspects et une des conséquences. Nietzsche nazi, bon, c'est la sœur de Nietzsche, et Nietzsche heideggerien par-dessus le marché. Ce qu'il y a, c'est que les grandes œuvres, et on pourrait le montrer pour Deleuze, le grand Nietzsche de Deleuze, c'est une sorte de récupération deleuzienne géniale au profit de Deleuze et au profit exclusif de Deleuze de Nietzsche. Je prends le terme qui est toujours utilisé par référence à la lecture ou la prétendue lecture que fait Deleuze de Nietzsche, c'est l'opposition actif-réactif. Ces deux termes ne se trouvent pas chez Nietzsche. Ils se trouvent seulement dans un texte qui est celui du 11e paragraphe du 2e traité de la généalogie de la morale. Et ça ne veut pas dire grand-chose. Avec ça, on ne peut pas lire Nietzsche. Alors l'important, c'est de le lire, justement, comme vous le disiez. Mais comment le lire ? Il faut commencer par se débarrasser des œillères qui ont été infligées par un certain nombre de grands commentateurs.
Vous ne pouvez pas nier le travail philologique absolument conséquent de Heidegger par rapport à la pseudo-volonté de puissance qui a été éditée à la va-vite, comme ça, et beaucoup utilisée. C'est un remarquable travail de philologie. Allons aux choses fondamentales. Qu'est-ce que ça veut dire l'esprit de vengeance ? Qu'est-ce que ça veut dire le ressentiment ? Qu'est-ce que ça veut dire la moraline ? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Hein ? Bon, prenons par exemple Heidegger, Wassers Denken, qu'est-ce qu'il nous appelle à penser ? Il prend cette formule admirable de Nietzsche, qu'il commente très bien, magnifiquement. C'est l'esprit de vengeance. C'est le ressentiment de la volonté contre le temps et son « il était ». Il était entre guillemets. Ça va très très loin, parce que qu'est-ce qui fait que nous sommes plongés dans un nihilisme exacerbé aujourd'hui ? C'est l'actualité. C'est là où nous sommes aujourd'hui avec les ravages du Dieu décomposé et mort, etc. Vous êtes en plein dans une vague nihiliste. Il faut aller au sujet. Alors qu'est-ce que ça veut dire que des humanoïdes qui sont absolument pétris d'esprit de vengeance et de ressentiment, et quel est leur rapport au temps? Ce rapport au temps, c'est précisément là qu'est le sujet.
Alors Mathieu Kessler, ce rapport au temps, parce que là on est, si on entend bien, là les gens qui voilà, il faut
je déteste le temps, parce que je déteste son il était, c'est-à-dire je suis contre le passager, ce qui passe. C'est, au contraire, il faut glorifier, ça c'est la pensée fondamentale de Nietzsche, il faut dire oui à ce qui passe,
il faut le devenir, il faut remercier. Alors ce rapport
Ce
rapport au temps en général chez Nietzsche, et puis aussi sur Mathieu Esther, j'aimerais aussi vous entendre sur ce rapport au temps de la réception, même si elle a été ici congédiée assez rapidement. Mathieu Kessler.
Je vais commencer par répondre à la seconde question. Je partage le malaise autour de cette table pour évoquer la réception. Bon, il y a une histoire de la réception de chaque auteur. C'est vrai que lorsqu'il s'agit d'auteurs qui interpellent au niveau des valeurs, c'est sûr que c'est très tentant de les détourner à son propre profit. Oui. Et ça a été très largement le cas de Nietzsche. Je pense qu'effectivement, on peut essayer de se mettre d'accord sur le fait que mieux vaut partir de l'étude de certains textes de Nietzsche, de certains aphorismes, comme le fait très bien Heidegger dans « Qu'appelle ton pensée ?», qui est certainement, disons, l'interprétation, le travail, justement le moins récupérateur, je pense, de Heidegger, à la différence de son Nietzsche 1 et 2, effectivement, là, qui est extrêmement contestable. Il y a un travail extrêmement contestable.
Oui, contestable, d'ailleurs, il faut préciser, on le sait depuis quand même quelques temps, contestable aussi parce que c'est un texte qui a été publié, qui est tronqué, hein, que
oui, par ailleurs.
On a enlevé des parties ensuite quand ça a été publié.
Mais
archives
Nietzsche
aussi.
Contestable, mais très important.
Oui, bien sûr.
Oui, enfin bon, ça, oui. Disons, ça appartient à l'histoire de la philosophie oui. du XXe siècle, mais je ne suis pas sûr que ce soit si intempestif que ça. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt, justement, partons, et c'est ce qui nous intéresse autour oui. de cette table, je pense, partons justement des idées de Nietzsche, qu'est-ce qu'elles nous disent aujourd'hui, à nous qui sommes réunis autour de cette table, sans faire référence nécessairement à l'histoire de l'interprétation, de l'exégèse oui. des textes
mais
nietzschéens.
Juste une petite parenthèse quand même, Mathieu Castellard. C'est-à-dire que là, quand même, s'il y avait un enjeu, c'est de dire, voilà, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une vérité, voilà, on accède à une vérité de Nietzsche en revenant au texte précisément. C'est quand même ça, quand même, une question
c'est
importante.
C'est pas une vérité, mais ouais. disons au que Nietzsche, voilà, il ouais. est certain que la façon de travailler sur les textes aujourd'hui, je dirais, en fait, depuis en gros une trentaine d'années, s'oblige à une probité philologique, pour parler comme Nietzsche, qui n'a jamais été employée auparavant. Et on peut le déplorer parce que ça peut donner un aspect, n'est-ce pas, trop universitaire aux études nietzschéennes. Bon, c'est aussi la valeur de ce travail universitaire qui a été fait qui est de façon plus récente. Et d'ailleurs, dont on ne parle pas beaucoup, parce qu'on parle des grandes interprétations. Quand on parle des grandes interprétations, on parle en fait des grandes récupérations. Mmh. Et si on ne récupère pas Nietzsche, si on n'écrit pas en fait un oui. essai sur Nietzsche, mais si on fait vraiment oui. une étude universitaire, à ce moment-là, c'est pas une grande interprétation, parce que c'est censé être servile, etc. Alors qu'il s'agit simplement oui. d'essayer de lire honnêtement l'auteur.
Oui, oui. Monique Dixot.
Alors justement, c'est sur ce problème de la lecture de Nietzsche que je voudrais rapidement intervenir. Nietzsche nous dit ce que signifie selon lui bien lire, et il dit ce qu'il attend de ses lecteurs, d'être des philologues parfaits. Quand il parle de la philologie, il dit toujours que c'est l'art de bien lire. Pour bien lire, il faut lire lentement. Seuls les philologues savent lire lentement. Alors qu'est-ce que c'est que bien lire ? C'est d'une part avoir des méthodes, et la philologie nous fournit ces méthodes, selon lui. La philologie a toujours été pour lui un modèle à la fois méthodologique et épistémologique, puisque toute science consiste à interpréter un texte, le texte de la nature, le texte de l'homme, le texte, etc. Mais pas seulement, il faut des méthodes, mais il faut aussi des vertus. Mathieu Kessler vient de parler de probité. Il faut de la probité, il faut de la justice.
Oui, ce qui n'est pas quand même toujours le cas de ces lectures. Oui,
mais si, beaucoup plus que vous ne croyez.
Il y va au marteau aussi. Hein.
Mais le marteau n'est pas destructeur. Pardon, je voudrais finir sur la justice, sur la vertu. Il nous dit qu'il faut de la chaleur et de l'enthousiasme pour rendre justice à une chose qui relève de la pensée. Alors, ce que vous entendez depuis le début par universitaire, semble-t-il, enfin, si je peux me permettre, c'est justement une lecture qui ne serait que méthodologique. Ça ne me paraît pas exact. Autrement dit, je crois que pour bien lire Nietzsche, il faut être nietzschéen, non pas au sens où on épouse des thèses, où on reprend ses sentences comme autant de slogans. Être nietzschéen, ça veut dire apprendre à bien le lire et apprendre à bien lire tout court. C'est-à-dire, encore une fois, à unir ce qui est, me semble-t-il, est extrêmement difficile, de la rigueur méthodologique et de l'enthousiasme.
Monique Dixot, on pourrait quand même rappeler, par exemple, le Crépuscule des idoles que vient de traduire Eric Blondel, là, vous avez des passages quand même sur Socrate, vous qui êtes une platonicienne avant toute chose.
Je peux vous citer des passages quand même dire, absolument contradictoires.
Non, mais je veux dire, quand il parle de Socrate, je ne peux pas dire que ça soit toujours avec un grand souci de lecture. Vous pouvez le montrer, effectivement, qu'il y a une proximité, mais bon, il y va, c'est une psychologisation très forte, il faut traiter...
C'est une psychologie de tout philosophe.
Je suis pas sûr. Philippe Soler,
est-ce que je peux rebondir sur cette question de la lecture ? Voilà, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Guy Debord, qui a dit la chose suivante, et qui me paraît très juste. Pour savoir écrire, il faut savoir lire. Et pour savoir lire, il faut savoir vivre. Autrement dit, moi je crois que le moment est venue de considérer Nietzsche comme l'aventurier qu'il a été, c'est-à-dire en effet un très bon philologue, mais tout le contraire de quelqu'un qui reste assis dans une bibliothèque, qui donnerait des cours, mais même s'il était en disponibilité de l'université, ça c'est de l'argent. Mais enfin, qui a vécu d'une certaine façon ce que tous ces textes nous disent, parce qu'il est bien évident qu'on ne peut pas le lire sans faire l'expérience personnelle de la façon dont ce penseur vit. Et ça, je crois que c'est la chose qui est encore en attente. Nous devons nous demander comment ce philosophe a été tout sauf un philosophe de cabinet, un philosophe assis, et comment il n'arrête pas de bouger, il n'arrête pas de voyager, pourquoi il est si sensible au climat. Oui. Il faut lire Ecce Homo de ce point de vue, qui est un énorme chef-d'œuvre. Qu'est-ce que c'est comme expérience personnelle, la pensée avec un corps qui assume cette redoutable tâche de refonder la pensée de refonder le corps qui pense. Moi, je crois que c'est ça qui est très intéressant, d'autant plus que Nietzsche, vous savez, a été malade très souvent. Il l'écrit, etc. Il faut lire sa correspondance, il faut lire la façon dont il vit. Et je crois que c'est ça qui est le plus important, qui nous met à 100 000 lieues de, en effet, des abstractions et des discussions policées entre philosophes. Comment est-ce que Nietzsche a changé votre vie personnelle? Voilà ce que j'ai envie de demander.
Alors, la question du corps me paraît très, très, très importante ici, parce qu'à la fois, il y a une sorte effectivement de lecture un peu rapide de Nietzsche qui dit revalorisation du corps, donc du coup, voilà, hédonisme, etc. C'est beaucoup plus compliqué que ça, évidemment. Bah, qu'est-ce qu'on entend par le corps? Bon, Eric Blondel, vous...
Pas du tout un hédonisme.
Vous avez même commencé votre travail, je crois, par cette question du corps chez Nietzsche.
Oui, parce que c'est une question centrale, mais enfin, j'ai surtout voulu insister sur le fait que on peut dire toutes sortes de choses sur Nietzsche, et comme l'a dit un commentateur américain qui est d'avant-garde, que personne d'ailleurs n'a traduit en France, Walter Kaufmann, il y a beaucoup de paltoquets qui ont écrit sur Nietzsche. Alors, on peut dire n'importe quoi sur des grands thèmes, mais l'important, c'est d'arriver quand même... Je n'accepterai pas, par exemple, certains essayistes dont je ne voudrais taire le nom.
Pourquoi?
Mais, et Heidegger,
radio,
en particulier, Heidegger est un voyou avec les textes et avec une certaine façon de récupérer Nietzsche qui privilégie, par exemple, des thèmes et des thèmes qui n'apparaissent
est-ce
très
voyou,
tardivement dans son œuvre.
Est-ce que le mot voyou est bienvenu? Le mot voyou? Vous êtes en pleine moraline, là.
mais Nietzsche lui-même utilise ce genre de
le voyou, détermination. Le voyou public, oui, ça c'est bon. En fait, c'est le forcené dans Zarathoustra. Mais enfin,
et le dévergondage de l'esprit moderne,
le
dévergondage de l'esprit moderne, c'est une formule de Nietzsche.
Qui lise mal, hein,
oui. Alors, non, ce que j'ai simplement voulu faire, pour ma part, c'est d'une part souligner qu'on ne peut parler de Nietzsche, aborder Nietzsche qu'en essayant de le lire et d'une façon suivi et méthodique et sans extraire un certain nombre de formules toutes faites pour faire de grandes interprétations, parce qu'il les fait et il les défait. D'une part, c'est le premier point. Mais d'autre part, il y a une antinomie chez lui entre la lecture, le texte, l'écriture, la philosophie et la pensée, etc. Et ce qui le soutient, ce qui aussi conteste la pensée, à savoir le corps, les pulsions, les affects. Bon. Et il y a une tension chez lui. S'il pense, s'il écrit, c'est comme s'il faisait de la morale, c'est-à-dire comme s'il entrait dans un des grands mots qui ne sont jamais utilisés, et pourtant que Nietzsche utilise à tout bout de champ, c'est le mot idéalisme. D'un bout à l'autre, le mot idéalisme. La guerre de Nietzsche, c'est contre l'idéalisme.
Absolument.
Ça ne consiste pas à être universitaire, comme si universitaire signifiait en effet mal élevé, crétin, complètement et toujours assis. Non, il ne s'agit pas de faire des travaux universitaires, il s'agit de, comme il le disait lui-même, de faire de la philologie, de lire et de méditer.